Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 203e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 10 juillet 2014 et au programme de ce soir du Marvel, du DC et de l'Indé pour nos reviews de la semaine. Chez DC, nous aurons notamment Batman Eternal, la nouvelle série Grayson ainsi que New Suicide Squad. En Indé, une nouvelle série Spread, suivie de Armor Hunters, le gros event Valiant du moment, Sherwood Texas, Walking Dead ou encore Death Vigil, et enfin chez Marvel Original Sin, Original Sins, Bruno, mon dieu, pourquoi tu as lu ça? Avengers de Spider-Man 2099, et enfin un numéro anniversaire de Spider-Man. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Pour m'accompagner ce soir, Bruno.
Oui, salut à toutes et à tous.
En même temps, c'était facile, je t'avais déjà annoncé dans l'intro.
Oui.
Oh là là, quel honneur. Et Mister René Bunny.
Bonsoir à toutes et à tous.
Je vous propose que nous faisions le podcast avec des voix comme ça tout le temps.
Oui, pourquoi pas.
Le France Inter du comics, évidemment. Et nous allons démarrer, bien sûr, avec la partie d'essai Batman Eternal numéro 14, que l'on écoute tout de suite. En plus, c'est moi qui commence comme un con.
Batman
Eternal 14, là, la suite de cette série hebdo qui va marquer la fin d'un premier gros chapitre, premier gros arc sur Batman Eternal. On clôt pas mal d'intrigues, en tout cas, enfin, on donne une résolution à pas mal d'intrigues pour la ville de Gotham. On va faire avancer pas mal de personnages. C'est bien sûr scénarisé toujours par Scott Snyder, James Tynion IV, qui est d'ailleurs au script, ainsi que Ray Fawkes, John Layman et Tim Seeley. Le dessin est de Jason Fabok. Ça fait extrêmement plaisir de le revoir sur le titre, surtout pour apporter cette conclusion à la au premier acte, si on peut appeler ça comme ça, de Batman Eternal. Combat final, enfin final, si on peut dire, en tout cas, gros combat entre The Penguin et Carmine Falcone, qui va avoir une résolution assez intéressante, avec une idée et des méthodes que l'on va découvrir sur la fin de l'épisode, qui sont pour le moins surprenantes, disons. Ce qui va poser des soucis à Batman. Ouais, j'essaie de rester assez cryptique, parce que je veux vraiment pas le spoiler, l'épisode est vraiment très bon. Et puis de l'autre côté, on a Gordon, toujours en prison, qui évalue la situation sur la proposition que lui a fait son fils, c'est-à-dire que le soir même, il va avoir l'opportunité de s'échapper. Tout va être prêt pour qu'il puisse s'échapper, sans craindre le moindre risque. Le fera-t-il ou le fera-t-il pas? C'est aussi la réponse que l'on aura dans cet épisode. Est-ce que je suis le seul à l'avoir lu?
Non.
Non.
Ah, quand même. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, messieurs.
Moi, je l'ai pas lu.
Oui. Bon, bravo, bravo.
Voilà, mais moi je l'ai lu par contre et c'est le premier épisode de Batman Eternal que je lis depuis une dizaine de numéros. J'avais arrêté cette série, je sais pas, ça me saoulait. Et alors du coup, j'ai été agréablement surpris par la lecture de cet épisode, d'une part parce que effectivement, comme tu l'as dit, il y a quand même une grosse intrigue qui s'arrête là d'un seul coup. On va donc passer à autre chose. Ça m'a vraiment pris de court parce que rappelle-toi les espèces de visions du futur. On voyait un ennemi mystérieux qui avait complètement détruit Gotham et qui avait détruit Bruce Wayne, etc. Et moi, j'avais imaginé donc que ce serait Falcon jusqu'au bout. Et peut-être que bah, finalement, ce sera pas Carmine Falcon qu'on voyait au début, enfin qu'on voyait dans cette espèce de flash forward. Donc mystère.
En même temps, l'intrigue se termine, une partie de l'intrigue se termine, puisque on le dit bien, cette intrigue va sûrement se continuer au sein de la prison. Enfin, je vais pas en révéler trop, mais
ouais, peut-être. Mais peut-être que c'est aussi quelqu'un d'autre finalement, ce gros méchant.
On nous avait teasé quelqu'un qui était derrière tout ça. On avait quelqu'un dans les ombres déjà.
Ouais, ben moi je pense que ce quelqu'un pourrait être justement. Pourrait être justement la personne
liée à la personne que l'on voit sur la fin.
Ah non non, du tout, du
Ah,
tout.
du tout.
Non, du tout, du tout. Non 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 non, je pense quelqu'un qui dans cet épisode marque un grand coup. Je peux pas être plus critique, mais
Ah, oui. Oui, oui,
oui.
oui.
Oui. Quelqu'un qui au
Un
début
clone. Si on peut dire.
oui, voilà, c'est ça. Non, mais
Oui,
c'est-à-dire
d'accord. On
que
pense bien à la même personne. Alors,
ouais, on
c'est,
pense bien.
je sais, je suis désolé, chers auditeurs, c'est peut-être très cryptique si vous n'avez pas lu l'épisode, mais c'est qu'on veut vraiment pas vous spoiler. L'épisode étant tellement bon, ça serait con de se faire spoiler, quoi.
Ce serait ambitieux et en même temps très intéressant que ça parte dans cette direction. C'est-à-dire qu'un personnage.
Et on a certaines pistes qui pourraient nous prouver que ça pourrait être ça.
Exactement, puisqu'un personnage qui, de prime abord, paraît très sympathique et qui a notre entière adhésion pourrait s'avérer être beaucoup plus
Ah bah,
complexe que ça. Et puis.
tu en dis beaucoup déjà, tu en dis beaucoup.
Oui, non, mais enfin bon. Il y en a plus d'un. Hein,
Ça va, Bruno, c'est assez clair pour toi?
Oui, tout à fait. Ça me donne envie, en tout cas, de rattraper mon retard, puisque j'ai un petit peu lâché, j'ai accumulé les issues de Batman Eternal, je dois en avoir 7 ou 8 de retard, donc voilà, à
Ah,
moitié
comme moi,
presque.
ouais, bah ouais.
Du coup, là, si c'est la fin du premier chapitre, je vais peut-être, bah voilà, les lire toutes d'un coup, là,
Bah, le
pour.
cliffhanger, en tout cas, nous fait démarrer sur une nouvelle histoire, enfin, un nouveau point de vue qu'on n'avait pas encore entreaperçu dans cette série. Nouvelle possibilité d'affaires ou d'enquête, si on peut dire ça comme ça. C'est plutôt pas mal. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ça dure longtemps, 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 cette histoire avec Carmine Falcon, le pingouin, la gangoire, etc. Et finalement, tout trouve une résolution dans celui-ci. Donc vraiment surprenant, quoi. Et bien joué d'arriver à nous surprendre encore une fois.
Non mais totalement et franchement ça m'a pris de court. Je pensais pas aimer cet épisode vu que j'avais un petit peu lâché la série et je pensais que ça allait traîner en longueur cette intrigue. Et là d'un seul coup de théâtre, toutes les cartes sont redistribuées pratiquement.
En plus, c'est servi par du Fabok, qui c'est très très bon, qui nous
Ouais.
dépeint un pingouin absolument dégueulasse.
Ouais.
Franchement, le truc est ignoble. Hein, le mec est vraiment ignoble.
Il y a la cover qui est pas de Fabok, mais qui est très belle aussi, je trouve. Elle est
Oui,
assez
oui,
stylée.
oui. La cover est de Dustin Nguyen.
Ouais, très très stylée.
Seul petit reproche, encore une fois, ce ton très gruesome, grim and gritty, assez rentre-dedans. DC essaye vraiment de faire du sensationnel parce qu'on voit quand même un couteau qui rentre dans un bras, qui retourne la plaie, enfin qui fait gicler du sang de
On
partout.
voit surtout des doigts rentrer dans un cou.
Oui aussi, oui. Ah oui, cette
Et
scène est assez glauque. Enfin voilà, DC essaye vraiment de faire du crade pour faire du crade. Ça me dérange un peu cette façon de faire, mais bon.
Ouais, c'est vrai que c'est violent. C'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est
Mais
pas pour.
ça fait un moment, hein, que DC fait du violon comme ça. Enfin
Ouais.
bon. En tout cas, bonne surprise que ce numéro, gros, gros bail, hein.
Ah, carrément, carrément. Très bonne surprise. Alors peut-être pas gros bail énormissime, parce que je serais intéressé si ça va dans cette direction à laquelle je pense, mais je ne sais pas. Peut-être que pas du tout. Peut-être que ça va repartir un petit peu en arrière. Donc, mais en tout cas, un bail. Voilà, un bail.
On va rester dans l'univers de Batman et on va passer à la nouvelle série sortie cette semaine, c'est Grayson. Tu vas nous en parler, Bunny.
Ouais, Grayson. Parce que je sais pas pourquoi Grayson, tu vois, c'est stressant.
Mais je sais pas, parce qu'il y a deux voyelles, donc je prononce le SZ. Voilà, c'est tout.
Ouais, mais bon,
Mais ouais.
je pense qu'on peut dire Grayson. Enfin, en
On
tout
peut dire
cas.
Grayson, on peut dire Grayson, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon. Il viendra pas nous casser la gueule, c'est un héros de papier.
Exactement. Alors, après cette
Quoique.
couverture.
Quoique.
Alors, la couverture, je trouvais, est super pourrie. Très honnêtement, je trouve cette couverture mochissime. Mais Tim Seeley est au scénario et Tom King est au dessin. À l'intérieur, c'est déjà beaucoup mieux.
Non, Tom King l'aide au niveau du scénario.
Ah,
Le
Michael Ranin,
dessin
le
est de
dessin.
Mickaël Ranin.
Oui, exactement,
Anciennement
exactement.
sur Justice League Dark.
Voilà. Et donc, c'est beaucoup mieux. L'intérieur.
Oh,
Les dessins sont très corrects.
le
Très
dessin
propres.
claque, putain, il y a des
Ouais.
pages superbes.
Alors, vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais assez mitigé sur ce titre. Clairement, dès les premières pages, on se dit, ils ont fait Dick Grayson un clone total du Winter Soldier, donc de Bucky. Déjà, le mec arrive sur un train en mission en Europe de l'Est, donc tu te dis, bon, ça y est, on est à fond dans le trip Winter Soldier.
Non mais date scène avec le flingue, sérieusement. Si
Ouais.
c'est pas juste énorme.
Mais c'est très bien fait, c'est
Ah
très
oui,
bien
non mais
fait.
le dessin qui sort de la page, etc. Enfin, il y a un
Bien
storytelling,
foutu.
il y a franchement, il y a de l'idée, quoi.
Non, non, mais c'est très bien foutu. Et alors justement, donc cette intrigue, donc il doit récupérer une personne en particulier. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est sa mission. Donc il est commandité par Spiral, cette fameuse organisation mystérieuse. Et il travaille d'ailleurs avec une nana qui est au fait. Alors ça, je savais pas si on le savait.
Ça avait été annoncé déjà dans la com de la série.
Qui est donc Huntress, mais Huntress, l'Huntress originale, enfin l'original, celle qu'on connaissait d'avant les New 52,
Elena
Bertolini, je ne sais plus, Bertinelli. Voilà. Et donc je trouve ça plutôt intelligent de former ce tandem qui va faire penser évidemment un petit peu aussi à Bucky et puis à Black Widow. Par certains aspects certainement, mais en tout cas donc là la mission prend une tournure assez inattendue.
Juste parce qu'elle est black, Bunny, franchement c'était facile comme van.
Oh non, mais rien à voir. Puis en plus je suis pas ah oui c'est vrai, oui
non, les métis.
oui voilà, tu sais, j'allais dire je voilà, j'avais même pas remarqué honnêtement, mais oui, elle est métissée. Elle a un petit peu changé par rapport au personnage qu'elle était avant.
Syndrome Wally West, quoi.
Oui. Enfin, ça m'a vraiment pas dérangé. C'est vraiment un détail. Et puis ensuite, donc la mission prend une tournure assez particulière. Il rencontre un personnage que je me suis dit, mais est-ce que c'est lui? J'ai été étonné de le voir là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il en fout là, ce personnage?
Spotlight Future's End.
Oui, bah on va même pas dire qui c'est.
Non, voilà.
C'est marrant, une confrontation assez drôle. Surtout par rapport à ce personnage-là, qui est un petit peu une version particulière de son mentor. Voilà.
Oui,
c'est un gros indice.
Complètement. Oui. Au début, on croit d'ailleurs que c'est le mentor.
Ah non, pas du tout. Moi, je pensais que c'était. Un ennemi.
La première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, Batman? Et puis après, je me suis dit, ah non, c'est pas Batman.
Alors moi je me suis dit c'est un ennemi tu sais qui est contre l'organisation Spirale, mais j'ai pas reconnu le personnage au fait.
Ah, et puis l'avoir reconnu tout de suite.
Après je me suis dit ah mais c'est peut-être lui au fait, tout simplement. Et mais je voyais pas trop ce qu'il venait faire là, et effectivement
c'est, bon, c'est normal que Bruno l'ait reconnu, c'est le seul à avoir lu la série hein.
C'est vrai.
Et on est cryptique hein, ce soir pour les auditeurs, je suis vraiment désolé.
Ouais, mais en même temps, bon, ce serait dommage de tout révéler de cet épisode qui m'a vraiment agréablement surpris. Et donc il y a cette fin aussi, on en apprend plus un petit peu sur les intentions du chef derrière l'organisation Spirale.
What's the question, quoi.
Oui, c'est un petit peu ça. Mais j'ai un doute.
Non, c'est pas lui, mais c'est vrai que le visage y fait penser.
Ouais. On les voyait. Est-ce qu'on le voyait dans Batman?
Je me rappelle pas avoir vu le chef, mais en même temps enfin voilà, tout ce qui était de Grant Morrison
dans
il y a une période
Batman
que je n'ai pas
Inc, on avait surtout vu la première Batwoman en fait qui était parmi les chefs de Spiral. On n'avait pas vu ce mec.
D'accord. Peut-être que ça a été développé dans la série Batwoman aussi.
Non mais je parle de la vraie la vieille Batwoman qui avait ce qui était sorti avec Bruce Wayne voilà qui,
ah d'accord.
Voilà, la l'originale.
Oui, c'est pour moi c'est assez obscur hein, cette période.
Mais ouais, en tout cas, moi j'ai trouvé que le numéro était assez prenant, avec une beaucoup d'action, un petit peu d'humour. Voilà, très rapidement, il n'a plus sa perruque blonde, qui était un petit peu énervante, mais voilà, non, c'est vraiment James Bond
aussi,
à fond quoi.
Il y a aussi un énorme changement pour Dick Grayson.
Il obtient des pouvoirs, effectivement, un système à base de peut-être d'hypnose qui est fréquemment utilisée par justement l'organisation Spirale.
Ou alors hypnose avec une espèce de spirale derrière, ça ressemble au compte Vertigo quand même. Hein.
Oui, non mais ce qui me faisait marrer c'était la manière dont il drogue le Russe là qui doit ramener tu sais, t'as des espèces d'hallucinations totalement ouf derrière d'un seul coup. Ouais. Quand il lui dit allez on est potes, partons ensemble. Et voilà, enfin ça m'a fait marrer effectivement.
Je sais pas pourquoi il y a un kiki sur cette page.
Mais je sais pas, c'est complètement ouf d'un seul coup.
Enfin, c'est pas vraiment un kiki, mais enfin, je sais pas, j'ai pensé à un kiki tout de suite, quoi, parce que je suis vieux, peut-être, mais.
Ouais, mais ça, oui, enfin, c'est.
Le kiki de tous les kikis.
Dans la bouche de Steve, tout de suite, un kiki,
oui,
on pourrait penser à autre chose.
Bien sûr, un kiki dans la bouche de Steve, bravo. Bravo, Bunny, bravo.
Ah, voilà. Un kiki dans la bouche de Steve, ça lui rappelle certaines soirées.
Enfoiré.
Mais enfin voilà, bon, c'est effectivement, c'est prenant, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a un petit peu de tout, c'est une sorte de cocktail explosif. Reste que la couverture est franchement pas bandante.
Engageante,
voilà,
ouais.
On va dire ça comme ça.
Ouais, oui, engageante. Il y avait d'autres variantes qui étaient justement sans incentive, dont une pour les 75 ans qui était faite par Jock, qui est très belle. Du coup, si vous n'aimez pas celle-là.
Ouais, mais le truc, c'est que voilà, la série, ça vend pas du rêve de prime abord. C'est même le titre, Grayson, je sais pas si ça va trouver son public facilement. Faut vraiment que les gens donnent la chance à ce premier numéro et donnent sa chance à ce premier numéro et puis à y lire la suite quoi.
On avait un preview la semaine dernière dans les comics DC. Le preview était sympathique, mais ça vaut pas la lecture du numéro quoi. Le numéro est bien plus sympa que le simple preview qu'on avait quoi.
Oui, parce que ça commence d'une manière assez assez commune, hein, on s'attendait pas à autre chose. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'épisode, ça part dans des directions qu'on n'attendait pas forcément.
Ah ben, on voit que Dick a un espèce de plan caché derrière. On voit que chaque personnage, en tout cas de cette série, a un plan, un autre plan que les autres ne savent pas. Que ce soit le chef de Spiral, que ce soit Elena ou que ce soit Dick.
Moi, je dirais plus que quand tu vois la dernière case, voilà, ça laisse pas mal de mystère quant aux connaissances de Spiral.
J'ai un peu peur du syndrome Talon. Moi, ça m'a vraiment fait, cette dernière page m'a vraiment fait penser à la série Talon, par contre.
Bah, moi, je dirais plus que James Bond, puisque tu faisais la comparaison, Bruno, tout à l'heure, je dirais c'est plus Jason Bourne, hein, ce nouveau, ce titre.
James Bond, moi, c'est la scène sur le train, ça m'a fait vraiment penser au dernier James Bond, justement, avec la blague aussi qui était en tireuse d'élite.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que toi, il suffit qu'il y ait, voilà, c'est toujours, toujours par rapport à l'ethnie des gens, ça y est, une blague.
Non, mais tu nous as déjà fait beaucoup de racisme, Bruno, dans
ça suffit.
Dans
en rantaine, en plus, tout à l'heure.
Moi, il y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'il me semblait qu'Elena Bertinelli, c'était déjà dans la mini-série Huntress, c'était le nom qu'elle avait. C'est un peu bizarre qu'ils reprennent exactement le même nom. Après, je peux me tromper, peut-être. Mais voilà.
Y a-t-il des gens qui ont lu la mini-série Huntress?
Je sais pas.
Bon, la note pour ce numéro.
Ah, pour moi, c'est un bail. Un bon bail d'encouragement.
Un bail aussi, pour moi, c'est une série très fraîche.
Je plussois totalement votre avis. Un gros, gros pass, évidemment. Non, un énorme bail. Très, très, très sympa, très fun, très frais. J'espère que les prochaines séries d'essai seront aussi agréables à lire, même si ça n'en prend pas le chemin. Mais bon.
Et à noter que c'est une série qui est à 3€ en plus, donc ça c'est bien.
Bruno, justement, l'autre nouvelle série de la semaine, apparemment, d'après ce que tu nous as dit, n'est pas du même acabit, c'est New Suicide Squad numéro 1, premier gros relaunch de DC, nous aurons Teen Titans bientôt. Ouais. Est-ce que ça valait le coup de relauncher cette série?
Bah, moyen. Alors c'est écrit par Sean Ryan, avec des dessins de Jeremy Roberts. C'est vraiment du bête et méchant, hein. Ce premier numéro, c'est il y a beaucoup d'action, les dessins sont plutôt réussis, même si ça reste du classique, hein. Il y a pas vraiment d'invention au niveau des cases ou même du dessin. Là, c'est vraiment une équipe de Suicide Squad qui est formée par un nouveau personnage qui s'appelle Mr. Sage. Donc là, on parlait de Question déjà dans le précédent numéro. Qu'on a chroniqué, et là c'est peut-être l'ancien Question qui apparaît dans la New 52 et qui va reprendre en fait la Suicide Squad à Amanda Waller, qui elle est destituée un petit peu de cette fonction, et il veut créer, en fait c'était Task Force X avant, et il veut faire la Task Force XL, donc il veut un truc bien plus badass. Et du coup
part tellement mal.
à Deadshot et à Harley Quinn on rajoute Black Manta, Deathstroke et la fille du Joker. Donc là il y a un petit peu d'overkill, hein, parce que Deathstroke, Deadshot, c'est un peu les mêmes personnages, Harley Quinn, la fille du Joker, c'est un peu les mêmes personnages. C'est le but par rapport au scénario, on voit qu'ils veulent les mettre en compétition.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, il va y avoir des conflits forcément entre
voilà, ces personnages. Bien sûr, ça commence avec Harley Quinn qui s'énerve contre la fille du Joker parce qu'elle a piqué le visage de son chéri.
Deadshot et Deathstroke ne s'entendent pas, c'est ce que l'on voyait dans le preview, hein, déjà cette semaine.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est après, alors ils sont envoyés sur une mission qui nous amène au retour de personnages qu'on avait pu voir dans l'ancienne continuité. C'est vraiment de la série B, quoi. Mais vraiment de la série B d'action qu'on pourrait voir à 23h sur une chaîne de la TNT. J'ai trouvé ça vraiment pas bandant. Je trouvais qu'il y avait plus de sens lorsqu'ils avaient fait les New 52, le premier numéro de Suicide Squad. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de punch, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans la violence, ou même ça m'avait beaucoup plus plu, le premier numéro de Suicide Squad. Là, c'est vraiment trop facile et ça sent un peu trop les années 90, quoi. Donc pour moi, c'est un peu une déception et ça restera vraiment limite impasse, quoi.
Ah ouais, carrément.
Ouais, ouais.
Bon, bah.
J'en attendais vraiment mieux et je trouve que l'histoire est pas bien posée et voilà. Et puis même le à la fin, le petit cliffhanger est pas super passionnant. Voilà, c'est vraiment bourrin comme série.
Bilan, si vous n'avez qu'une nouvelle série à lire cette semaine, il s'agit de Grayson.
Oui, vraiment, qui m'a beaucoup plus plu.
On termine notre partie d'essai avec les TPB sortis cette semaine. Animal Man, le volume 6, Flesh and Blood. On parle bien sûr de l'ancienne version d'Animal Man, celle qui était parue dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Ça reprend les épisodes 51 à 63 de la série, avec Jamie Delano au scénario et Steve Pugh au dessin. C'est au prix de $25. Si ma mémoire est bonne, ça doit être la fin de la série Animal Man. J'essaie de vérifier en même temps et je meuble, hein, parce que voilà.
Il me semble que c'est ça, oui.
Non, pardon, la série va jusqu'au numéro 89, autant pour moi.
Donc ce n'est pas ça.
Voilà, et Bruno qui acquiesce et qui...
J'essayais de meubler, tu sais, aussi, donc...
Mais je crois que c'est ça. Je crois que ce n'est pas ça.
Passons à une autre sortie TPB, du vieux encore au prix de $30 cette fois-ci, quelque chose qui va faire plaisir à Benny, bon, même s'il l'a déjà. Il s'agit de Batman Bruce Wayne Fugitive, nouvelle édition, qui ressort, qui contient donc les épisodes de Batman 603 à 607, les Detective Comics 768 à 775, Gotham Knights 29 à 32 et Batgirl 29 et 33.
Ouais, très bien. Très bon event qui, je l'espère, sortira un jour en français chez Urban.
Voilà. Maintenant qu'il s'est ressorti avec une nouvelle édition en TP US, il y a des chances que ce soit le cas. Je rappelle que c'était du Ed Brubaker au scénario et du Sean Phillips au dessin notamment.
Ouais, donc franchement, du Brubaker sur Batman, on a tendance à l'oublier, hein, qu'il est passé dessus. Et il a fait quand même quelques petits trucs sympas.
Tu allais dire, Bruno?
Du lourd.
Ah, du lourd, pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu. Enfin, terminons notre partie d'essai en TP avec la sortie du deuxième et dernier TP de Talon. On en parlait tout à l'heure, s'appelle The Fall of the Owls, avec les épisodes 8 à 17 ainsi que le Birds of Prey 21. Gros tome au prix de $20. Et c'est donc le deuxième et dernier tome de cette série qui s'est arrêté. Voilà, c'est tout pour notre partie d'essai. On passe maintenant à notre partie indé et on ouvre le bal avec une nouvelle série qui est sortie chez Image cette semaine. Évidemment, il s'agit de Spread, nouvelle série de Justin Jordan avec des dessins de Kyle Stram. Et c'est mon petit coup de cœur de la semaine.
Oh bah tiens, ah bah alors...
C'est d'une violence... Alors, Justin Jordan, on rappelle, c'est le gars qui a écrit cette magnifique série, Luther Strode.
Ouais.
Ah oui.
Génialissime. Oui. Bijou d'humour, de violence, de gore. Eh bien, là, on est dans le gore, la violence, un tout petit peu d'humour, très léger, ouais. Mais c'est très sympa. On est dans un monde où il s'est passé une espèce de grosse infection par des monstres à tendance lovecraftienne, avec des bouches et des yeux partout, des tentacules et qui tuent
et
tout
si
ce qui bouge.
Et si je t'attrape ?
Eh bien, je tentacule, évidemment.
Ouais. Et je te et contamine. Tentaculé, mais non, mais c'est vrai que c'est un verbe qu'on n'utilise pas assez souvent, hein. Que nous tentaculâmes.
Ouais. Et ça s'appelle le spread, justement.
Le spread. On va suivre un personnage qui s'appelle No, qui est en fait ni plus ni moins que Wolverine sans griffes. Bah, même visuellement. Enfin, je veux dire, voilà. Le mec est super balèze, il découpe les gens à la hache, et il a la capacité de ne pas être infecté par le spread. Parce que les gens infectés par le spread reviennent un peu sous forme zombiesque, hein, clairement. Et on va découvrir dans cet épisode un bébé qui s'appelle Hope, qui va être sauvé par Cable, qui va partir dans le futur.
J'étais sûr que t'allais la faire.
Non, le bébé s'appelle vraiment Hope.
Oh putain.
Et c'est le dernier espoir de l'humanité.
Oh putain.
Je vous laisse découvrir pourquoi dans le comic. Franchement, c'est fun. Ça se lit assez vite, mais je suis vraiment rentré dedans. Le dessin est particulier, un dessin assez indé, assez anguleux, mais je trouve ça sied bien au comic, à cette ambiance un peu Mad Maxienne, un peu post-apocalyptienne, post-apocalyptique plutôt.
Post-apocalyptienne,
j'ai trouvé ça super
moche. Toulousienne aussi, hein.
T'as trouvé ça super moche, Bruno?
Non, super beau, justement. Ah, je trouve pas ça si indépendant, enfin, si indé au niveau du style. Je trouve que c'est quand même assez clair. C'est vraiment très propre, au niveau du dessin. Il y a toutes ces créatures qui, effectivement, sont hyper détaillées. Il y a un joli jeu aussi entre les couleurs, parce qu'il y a beaucoup de rouge et de blanc, puisqu'on est sur une terre enneigée. Et donc, ça fait bien ressortir le côté trash et gore de ces créatures toutes rouges. Il y a quand même des yeux qui se transforment en bouche, c'est bien dégoûtant.
Ah ouais, non, mais puis ça sort de partout, enfin, je veux dire, c'est vraiment crade. Hein.
Voilà, le personnage principal, très taciturne, son nom, il le tient un petit peu de la façon dont il parle aussi, puisque il dit pas grand chose.
Mais... No, c'est le mot qu'il répète constamment. Il y a juste, il dit une autre phrase, je vous laisserai découvrir quoi dans le comic, mais voilà, il dit no, je sais pas, au moins 10 fois.
Ouais, mais il doit pas être au crédit lyonnais.
Voilà. Alors là, je l'ai pas compris.
Pour le pouvoir de dire oui. Je sais pas.
Oh putain. Oh putain.
C'est trop pourri.
En plus, le pire, c'est que je connaissais même pas le slogan.
Non, maintenant, c'est Gad Elmaleh en plus. Crédit lyonnais, je crois.
Oh putain.
Mais voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a failli être mon coup de cœur. Mais je suis d'accord avec toi, Steve. C'est vraiment le truc à lire en indé cette semaine. Si vous aimez le post-apo, les choses assez adultes et avec sans doute une mythologie qui a l'air assez intéressante.
Ouais.
Vraiment, jetez-vous dessus, quoi. Ça vaut vraiment le coup.
Et pour ceux qui avaient lu Luther Strode, hein, l'ancienne mini, plusieurs mini, puisque c'était une suite de mini de Justin Jordan aussi chez Image, vous serez dans la même ambiance. C'est pas Tradmour au dessin, mais c'est exactement le même style, en tout cas de graphisme assez glauque, assez détaillé dans tout ce qui est un peu trash. Il y a des têtes coupées fendues en deux, il y a des bras qui volent. C'est vraiment crade et on est dans la même ambiance que Luther Strode en termes de violence.
Ça met de bonne humeur, quoi.
Ah franchement, moi ça m'a mis la patate, ça.
Oui.
Ça m'a mis la patate. Vraiment super cool, très bonne série, gros bail.
Ouais, il y a un petit truc qui m'a amusé aussi, c'est quand même ça joue un petit peu comme Saga avec une narration à travers l'enfant,
oui.
En fait.
Oui.
Donc c'est moins original parce qu'on l'a déjà vu dans Saga et que ça marche bien.
Bon, après... Sauf que dans Saga, je crois que c'est dit quasiment d'entrée de jeu qu'elle est que c'est l'enfant, alors que là on le comprend que plusieurs pages après. Donc ouais. On a spoil un peu, mais bon.
Mais ouais. Et puis sinon, il y a aussi un gros clin d'œil toutes ces séries où on a justement un mec qui protège un enfant, un peu comme Lone Wolf and Cub. Et puis justement, on a eu Cable effectivement et Hope. Donc,
sauf que là,
ce
c'est pas
de...
Cable, c'est Wolverine qui la protège.
Ouais, mais... C'est ça, exactement. Mais comme toi, un gros bail et jetez-vous dessus.
Continuons avec toi, Benny, qui a lu la suite de l'event de Valiant actuellement, Armor Hunters. C'est le numéro 2.
Armor Hunters.
Oh putain.
Donc, Robert Venditti. Non, mais j'ai Robert Venditti au scénario. Et Doug Braithwaite est au dessin. Et sinon, je rêve d'une banque. Non, je déconne. Donc, le scénario, parlons-en. Je crois que notre ami Flo avait fait la review de la première partie de cette Armor... Enfin, de...
Ouais, j'allais dire... On l'avait mis partout.
Ouais. Effectivement, j'en mettrais peut-être pas autant que lui, parce que
là j'ai fait semblant en plus. Mais...
J'aime bien. C'est très bon. Donc le scénario c'est que une espèce de race extraterrestre un petit peu bizarre arrive sur Terre et veut réquisitionner la fameuse armure d'Ixo Manowar, car ils disent en fait de leur point de vue cette armure risque d'être là. D'entraîner la destruction complète de l'univers. On sait pas trop pourquoi ils disent ça, mais en gros, partout où elle passe, ça crée des problèmes. Donc
les
ils veulent la récupérer.
Passent, ouais.
Voilà, les gens trépassent. Néanmoins, de leur point de vue, vaut mieux détruire la planète Terre pour sauver l'univers que de mettre l'univers en danger, quoi. C'est un petit peu la théorie qu'a développée Hickman dans Avengers récemment, quoi. Est-ce qu'il vaut pas mieux détruire une planète pour sauver un univers, voilà.
De toute façon, en tant qu'être humain, nous ferions la même chose, hein, clairement.
Oui,
s'il fallait faire péter, je sais pas, une planète, même habitée, admettons que Saturne, je ne sais pas pourquoi Saturne, c'est le premier nom qui m'est venu, admettons que Saturne soit habitée, si on devait la faire péter pour sauver l'univers, on n'hésiterait pas.
Oui, enfin, sauf que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'habitants dessus.
Oui, non, mais je veux dire, l'être humain est une ordure, on le sait, donc.
Ouais, mais.
Je veux dire, quand il y a déjà moi sur Terre, on peut être qu'une ordure, quoi.
je pense qu'il y aura des débats quand même.
Certes, non mais sérieusement, donc voilà, il y a cette question du point de vue des méchants qui se pose, une question un petit peu philosophique s'il en est. Reste que les méchants ont vraiment des sales gueules de méchants, donc on sait que c'est eux les qui
ont tort,
quoi. Voilà. Exactement. Le grand méchant d'ailleurs, c'est le mix entre Apocalypse et Kang. C'est un être assez bizarre, il a une sorte de masque et puis un exosquelette à la Apocalypse. Enfin, il est assez charismatique et d'ailleurs ils sont tous assez zarbes. Voilà, donc je vous laisse découvrir tous ces personnages à la lecture de cette Armor Hunters. Et ils viennent de détruire entièrement Mexico City, voilà, pour un petit peu mettre du plomb dans la tête des terriens, hein, leur montrer qu'ils déconnent pas. Voilà, c'est première mise en garde, ils tuent quelques millions de personnes du coup. Et Ixo Manowar va intervenir, va essayer de régler la situation avec d'autres super-héros de cet univers Valiant comme Bloodshot et puis Livewire. Donc voilà, un épisode assez musclé, pas mal d'action. On se quitte sur un petit cliffhanger sympathique. Va y avoir vraiment du rififi dans le prochain épisode. Ça va péter.
Oh là là, Loulou, tu te calmes.
Voilà. Oh là, oui. D'accord, ok. Je viens de comprendre la blague. Et du coup, ça m'a perdu dans ce que j'allais dire. Oui, puis il y a aussi des passages assez graphiques, parce que notamment, ils ont récupéré un gars qui a une armure à la Ixo Manowar, et ils s'aperçoivent que l'armure est vraiment symbiotique et au fait remplace les parties de son corps qui sont bousillées. Et là, au fait, ils font des expériences sur ce gars-là, donc ils lui coupent une jambe pour voir ce que ça fait si la jambe est bien remplacée par l'armure. Et donc c'est vraiment très gore, quoi, puisque en plus il lui coupe la jambe sans anesthésie, sans rien, quoi. Histoire que le test soit encore plus abouti, j'ai envie de dire.
Mais c'est comme ça qu'on doit tester la chose.
Exactement. Faut y aller à fond, sinon on ne goûte pas à tous les plaisirs de la vie. J'en sais quelque chose, croyez-moi. Donc voilà, non mais très très bon event, avec pas mal de tie-in, hein, y a toute une checklist à la Marvel à la fin de ce numéro pour s'y retrouver.
Ça dit d'ailleurs que la suite se passe dans Amazing X-Men numéro 12.
Non, mais il y a du je retrouve plus la page avec la checklist. Je l'ai. Il y a du Armor Hunters Bloodshot, du Armor Hunters Harbinger. Enfin bon, voilà, ils ont créé des mini-séries pour l'occasion. Et puis bien sûr, il y a des tie-ins dans Unity et dans Ixo Manowar. Donc voilà, ça fait vraiment pas mal de numéros à lire jusqu'à octobre. Et pour le moment, c'est un event très très sympathique. Et ça change des events Marvel et DC. C'est vraiment une alternative très intéressante que cet univers Valiant.
Franchement, t'abuses parce qu'il n'y a pas du tout d'event chez Marvel ni chez DC, hein, en ce moment.
C'est vrai. Ça en manque un petit peu. C'est vrai que c'est facile comme argument puisque c'est le seul event qu'on a eu récemment dans l'univers des comics.
Mais il n'y a plus d'event chez Marvel puisqu'il y en a constamment.
Oui, c'est vrai. Mais remarque, chez Valiant, on va pouvoir dire que il y en a eu un récemment, finalement. C'était Unity, justement, juste avant.
Ouais. C'était plus un crossover qu'un event, en fait.
Il y avait Harbinger Wars aussi, qui était un petit crossover.
Ah, oui. C'était plus des crossovers, en fait, ouais, que des events à proprement parler. Même s'ils essayaient, au niveau de la com, ils essayaient de faire passer sous format d'events, ça restait des crossovers.
Enfin, là, c'est vrai que ça prend encore plus d'ampleur. Hein. Là, c'est vraiment la super menace badass. Qui vient de l'autre bout de la galaxie et
comme ton petit rototo que t'as retenu.
Oui.
Tu croyais que ça passerait inaperçu.
Il venait de l'autre bout de la galaxie, celui-là.
De Saturne.
Oh, c'est Rocket Raccoon qui te l'a ramené.
Non, c'est juste que, en fait, on pourrait croire que je me suis gavé comme un porc, mais au contraire, j'ai pas mangé, c'est ce qui arrive aussi. Voilà, il commence à se faire faim.
Des remontées de bile, on appelle ça.
Ouais, mais je me fais pas de bile. Oh!
Le chien de boule, évidemment.
Oh là là.
Putain, vous êtes allé loin, là.
On est dans la vanne ce soir.
Je crois que
Ouais.
depuis que t'as
Donc,
parlé de Riri Fifi Loulou,
oui.
ça part en freestyle.
C'est un bail, donc, Benny.
Oui, c'est un bail, c'est un bail. C'est très bon, très intéressant, bien dessiné aussi. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite de cet event.
Continuons avec toi, Bruno, qui va nous parler d'un projet chez un petit éditeur, c'est Sherwood, Texas.
Oui, ça sort chez 12 Jauge. C'est scénarisé par
Tu
Charlie
peux dire
Kirk
gauche aussi, en fait, hein.
Gauge. Ouais, c'est scénarisé par Charlie Kirchhoff avec des dessins d'Andrew Robinson. Ouais, je suis allé surtout pour le côté des dessins en fait. Andrew Robinson, moi j'aime bien. Je trouve pas qu'elle soit si dégueulasse que ça la couverture par exemple de Grayson. Alors c'est une grosse
C'est vraiment
ressucée
dégueulasse.
de la série Sons of Anarchy puisqu'on va s'intéresser à une petite ville au Texas et à deux gangs de bikers qui s'opposent. Il y a les Nobles et il y a les Jesters. Et ça commence avec le chef des Jesters qui se fait tuer. Il y a son enterrement, il y a ses deux fils qui se retrouvent. Il y a un des fils qui est un militaire et l'autre qui est un membre du gang. Bien sûr, l'autre fils en veut au frère de pas s'impliquer plus dans le gang. Ça va s'envenimer, le fils militaire va être un peu dépressif, il va vouloir aller boire des verres, et il va se retrouver mêlé en fait à nouveau justement à cette guerre des gangs avec justement il y a un petit peu plus derrière la mort du chef des Jesters, il y avait voilà, des choses un peu plus terre à terre, et donc ça va être développé dans ce premier numéro. C'est pas désagréable à lire,
Ça fait très cliché hein, quand même hein, ce que tu
mais
racontes.
voilà, c'est hyper cliché. On a l'impression de voir une version light de Sons of Anarchy. Il n'y a pas vraiment d'éléments de surprise, mis à part dans les toutes dernières pages, puisqu'on a quand même, ils sont, c'est des descendants indiens quand même, les deux frères héros de ce comics. Et il y a
T'as
un
un
des
problème avec
personnages.
ça? C'est ça?
Non, non. Il y a un des
Oh, espèce de raciste!
Il y a justement
Ça y
un
est.
des deux frères qui a une vision en fait de son père zombifié qui lui parle et qui lui dit d'aller sauver son fils, son frère en fait. Et donc est-ce qu'il va y avoir des petits éléments chamaniques ou voilà de supernatural là-dedans, je ne sais pas. Voilà, c'est une lecture pas désagréable, mais qui m'a pas non plus marqué. Et voilà, comme j'ai lu aussi deux très bons titres en indé cette semaine, celui-là reste un petit peu en bas de la pile. C'est vraiment juste un petit check-it pour les fans de l'ambiance bikers et voilà, qui aiment bien les dessins de Robinson, même si je trouve que les intérieurs sont vraiment pas terribles. Voilà.
Très bien, on continue avec toi, Benny, qui va nous parler de ta déception du mois dernier. Est-ce que ce nouveau numéro de Walking Dead a reçu remonter le niveau?
Voilà,
Grande
excusez-moi,
réflexion.
c'était une intervention de Nono, je sais pas.
Ça va lui faire plaisir.
Oui, Walking Dead, Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Godiano, on ne change pas une équipe qui gagne. Et est-ce que ça remonte le niveau? Eh bah, bof, bof. Il y a eu l'illusion, en fait, effectivement, de Kirkman qui partait sur quelque chose qui se déroulait quelques mois plus tard, avec des personnages qui avaient un petit peu changé, évolué, la situation avait aussi été un petit peu modifiée, nouveau statu quo, mais au fait, là, il part dans une direction qui est la direction la plus simple finalement, la plus évidente et qu'on voit venir à 15 000 km. Je veux dire là la dernière page c'est vraiment le cliff super super vu et revu. Par contre il y a une bonne surprise dans ce numéro, c'est l'un des bon alors maintenant je vais le dire, hein. Rick est toujours parmi nous. Parce que bon, faut arrêter de ménager le suspense. Ça fait quand même des semaines que c'est fini All Outwar. Rick est toujours parmi nous, mais justement, Rick a agi d'une manière super, comment dire, étonnante dans cet épisode.
Pour quelqu'un qui est parmi nous, s'il agit
Oui, voilà,
du
d'accord.
verbe jaisir, hein.
Oui.
C'était l'intervention inutile, merci, au revoir.
C'était super drôle. Mais hormis ça, oui, voilà, il agit vraiment d'une manière super super particulière dans cet épisode et qui m'a étonné. Et il pourrait y avoir des choses intéressantes à partir de là, au fait, par rapport à Rick. Mais bon, je suis assez déçu quand même. Je suis assez déçu. C'est un renouveau qui n'en est pas un pour cette série. Robert Kirkman n'a pas su, pour moi, redonner un nouveau souffle au fait à ce titre. Je trouve là que ça stagne et que on repart toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes cliffs, dans les mêmes intrigues. Voilà, je suis assez assez circonspect depuis la fin de la Outward. Et c'est bien dommage. Donc pour moi, ce sera juste un check-it, encore une fois, cet épisode.
Est-ce que ça peut s'expliquer par le fait qu'il travaille maintenant sur un nouveau titre, Outcast? Donc ça, plus Invincible, plus Super Dinosaur de temps en temps, ça fait peut-être un peu.
Il a toujours fait 36 trucs en même temps, mais après faut faire des choix, c'est dommage parce que j'ai l'impression que là ça commence vraiment à tourner en rond et je sais pas où est-ce qu'il va avec ça.
Bien. On va terminer notre partie indé avec toi, Bruno, qui va nous présenter, je crois, ton coup de cœur de la semaine.
Oui, tout à fait.
Il s'agit de Death Vigor.
Oui, et c'est scénarisé et dessiné par Stjepan Sejic, voilà, qui il fait tout, hein, tout seul, hein, c'est son petit bébé.
Et on en parlait dans le Weekly News de mardi, petit point ouais, teasing vers le Weekly News 99. Voilà. Et oui, auto-promo, il n'en faut jamais assez trop. Ouais, ça ne veut rien dire, mais c'est
fallait que ça arrive. Vous pouvez trouver assez facilement sur le net une preview qu'il a proposée avec une vingtaine de pages de ce premier numéro qui vous donnera une petite idée du comics, sachant que ce premier numéro est quand même assez oversized puisqu'il fait 45-46 pages, il me semble. Donc dans ce numéro, on va être à fond dans la lutte entre le mal et le bien, entre les créatures démoniaques et ceux qui essayent de les empêcher de venir sur Terre. On va suivre ce qu'on appelle le Vigil, qui est une sorte de groupe qui est sélectionné parmi les personnes qui décèdent. On a une nana qui a une faux, qui ressemble un peu à la faucheuse, elle peut représenter la mort, mais en fait elle est du côté du bien, qui sélectionne
en fait,
justement...
Hunger Games, mais version mort, quoi.
Voilà, c'est ça, qui sélectionne des personnes pour les aider, pour l'aider elle à lutter justement contre le mal, et donc elle sélectionne des gens qui meurent et qu'elle pense être capable de l'aider. Donc on va suivre...
J'ai rien compris, mais alors vraiment, alors... Hop. Au royaume des gens qui comprennent rien, là j'ai rien compris.
Alors,
vraiment, là je suis le roi.
C'est pourtant
pour
assez
combattre
simple.
Le mal, ils envoient une femelle, c'est tout.
Voilà, c'est pourtant assez simple. Voilà,
d'accord.
C'est en fait on va suivre un groupe de gens qui sont des gens qui sont décédés et qui ont été sélectionnés par la mort pour lutter contre le mal. Et donc ils acquièrent des pouvoirs des pouvoirs magiques et en fait ils luttent contre une sorte de confrérie qui veut lâcher l'enfer sur Terre et pour cela ils utilisent des sacrifices humains, des choses comme ça.
Parce que apparemment donc dans ce comic la mort n'est pas une entité maléfique mais juste une entité neutre.
Voilà, c'est ça, et elle est plutôt même du côté du bien.
Et bon, ça a l'air d'être de la merde, au fait.
Ce qui fait de la force de ce comic, c'est son casting. Moi. Puisque en une quarantaine de pages, on découvre pas mal de personnages, et ils sont tous vraiment très intéressants. Ce que Sejic fait très très bien, c'est les expressions des personnages. Donc ça leur donne pas mal de vie, puisque il arrive à faire passer pas mal d'émotions à travers les dessins
à travers
qu'il fait. Et puis voilà, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour, c'est assez malin, il y a des retournements de situation, il y a une grosse influence, j'ai trouvé en lisant le comics du manga et puis de l'univers un peu japonais puisqu'on y retrouve une ambiance un petit peu à la Bayonetta, mais en moins trash et moins déviant. Au niveau de cette lutte entre le bien et le mal, il y a un côté aussi X, la série de Clamp. Où on avait justement deux clans qui s'opposent et où dans chaque clan en fait il y avait plusieurs personnages très charismatiques. On avait du mal à choisir justement son camp et c'est un petit peu le cas ici aussi.
Il y a un côté Gantz, hein, ils sont morts, ils doivent faire des combats. Il y a un côté Enfer et Paradis, il y a un côté
ouais,
Taxi
voilà,
2.
C'est ça, ouais. Et donc en tout cas voilà graphiquement c'est vraiment
très. Il y a un petit
très,
côté
très...
ouais Taxi 2 ouais je pense.
Taxi 2
surtout.
Aussi surtout ouais.
Surtout.
Voilà. Après, Cégic, on le connaît, il a tendance à plutôt se focaliser sur ses personnages, c'est-à-dire que les fonds sont parfois un petit peu vides, même si on a droit quand même à quelques splash pages assez intéressantes, puisque par exemple le héros est capable d'invoquer carrément un vaisseau pirate avec à l'intérieur
Albator.
des barbares et tout qui des barbares zombies, donc ce qui est assez classe. Et voilà. Donc il y a même un corbeau qui se transforme en sorte de dinosaure géant qui
Oh
peut se
putain, c'est
battre contre
génial.
les
C'est
démons.
génial. C'est génial. Le
Voilà.
corbeau qui se transforme en dinosaure géant, j'en ai rêvé. Si c'est dans ce comic, je vais le prendre.
Et ben
Mais
voilà,
ça a l'air
tu
d'être
peux te jeter dessus.
un gros paquet de fanservice, mais pas forcément de façon négative, quoi.
Voilà, c'est ça, mais bah on sait, CJ aime bien faire pas mal d'humour sur sa page DeviantArt, par exemple. Il poste pas mal d'images voilà, avec pas mal de fanservice, comme tu dis. Et là, il reprend un petit peu cette formule, mais à côté de ça, il y a quand même toute une histoire, toute une mythologie qui a l'air assez intéressante, à base justement d'armes magiques aussi. Et voilà, moi j'avais qu'une envie à la fin de ce numéro, c'est de lire déjà le deuxième. Donc gros coup de cœur et un gros bail. Donc une bonne surprise, ce titre.
C'est comme un paquet de bonbons Haribo, au fait. C'est mauvais pour la santé, mais on a envie d'en reprendre.
Comment ça, c'est mauvais pour la santé,
C'est
Haribo?
très bon les bonbons Haribo. Mais voilà, donc un gros gros bail et je vous invite à acheter un œil à ce comics.
Juste un œil, hein. Parce que c'est pas
Mais
en 3D donc.
non, il n'y a pas de 3D,
Juste un œil, parce que s'il jette les deux, il peut plus rien voir.
Ah, tu sais, dans Spread, apparemment, jeter les deux yeux, ça ne pose pas de problème.
C'est vrai.
Putain, mais en
C'était pas
fait.
très bon, hein,
Non,
mais.
c'était vraiment de la merde qu'on a dit là, quand même.
Mais en tout cas, ce
Clairement.
comic, c'est loin d'être de la merde et je vous le conseille.
Ton coup de cœur de la semaine, donc.
Exactement. Ah,
Sorti
carrément.
chez Topco.
C'est chez Topco, ouais, donc
Ouais,
j'imagine.
c'est Jig, c'est Topco, ouais.
Topco, la vache qu'il vous faut.
Allez, on termine avec les TP de la semaine dans la partie indé, évidemment. On commence avec du Dark Horse, Chronicles of Conan numéro 27, Sands Upon the Earth and Other Stories. On va retrouver entre autres du James Ousley au scénario, du Val Simeisk, du Geoff Fisher Wood, du Georges Roussos pour les dessins, Val Simeisk aussi encore au dessin. Bon bref, il y a pas mal de monde. C'est la vieille version de Conan, version Marvel. C'est Conan de Barbarian numéro 206 à numéro 214 qui sont réimprimés dans ce TP, ainsi que le Handbook of the Conan Universe qui n'avait jamais été réimprimé jusqu'à présent, jamais dans une édition TP en tout cas. C'est au prix de 20$. Pour les fans du vieux Conan, et Dieu sait que ces vieilles histoires de Conan étaient très sympathiques. Rappelez-vous, ça sortait à l'époque en VF, dans des magazines spéciaux. Personne s'en rappelle des
Ah
magazines de
si si
Conan?
oui. Si si bien
Non.
sûr,
Si
j'en ai à la
si.
boutique.
Continuons toujours chez Dark Horse avec là encore du vieux Dr. Solar Man of the Atom Archives volume 3 au prix de 20$ qui reprend les numéros 15 à 22 de l'époque Gold Key. Avec une intro, enfin une préface, pardon, de Mike Baron, et c'est notamment du Paul S. Newman au scénario. Toujours chez, non plus chez Dark Horse, pardon, mais chez IDW, nous avons les fameuses Teenage Mutant Ninja Turtles micro-series, qui reprenaient des personnages en one-shot, hein, qui
Ouais.
s'intéressaient à des personnages de l'univers, qui sort en TP. Alors par contre, je n'ai pas le nombre exact de numéros collectés dans ce TP, mais ça vaut 18$.
Ouais, j'avais fait la review notamment d'un épisode one shot
Ah, il y en a quatre, pardon, il y en a quatre, voilà.
Sur Krang, qui était bien marrant, qui était Je pas crois
mal
que c'est du un tout. nouveau printing parce que c'est déjà
Oui, c'est un
sorti
nouveau
il y a un
printing, oui.
ouais.
C'est un
Mais
nouveau
c'est
printing.
très sympa, ouais. Il y aura deux volumes qui s'intéresseront aux gentils et il y aura également deux volumes qui s'intéresseront aux méchants.
Et justement, nouveau printing encore, bah c'est le volume 1 de la série régulière de Teenage Mutant Ninja Turtles qui ressort cette semaine au prix de 18$ également.
Ouais, ça marche très bien et puis avec la sortie du film aux États-Unis, ils en profitent puisque c'était plus dispo.
Comment ça, il y a un film qui sort? Je me rappelle pas de cette horreur.
Mais pourtant, on en a
Retrouvez le
parlé dans les
Weekly
Weekly News et tu ne l'as pas écouté. Eh ben
News.
voilà, tu es attentif. C'est bien ça.
Justement, c'est parce que je l'ai écouté que je dis que cette horreur n'existe pas à mes yeux. Alors, Rocket Girl sort chez Image, le premier TP de cette série de Brandon Montclar et Amy Reader au dessin, au prix de 10$. Et oui, c'est un premier TP de chez Image, c'est au prix de 10$. Très bonne série, très 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 encensée par la critique.
Ouais, tout à fait. Très bien. Rocketeer en version moderne et voilà. Très
En
sympa.
version féminine, peut-être, du coup.
Et
Oui.
exactement.
Comme je dis, très encensé par la critique, je peux pas donner mon avis, je ne l'ai pas lu. Mais je pense que ce TP à 10$ va atterrir très vite chez moi. Voilà. Continuons avec du Tortue Ninja, cette fois-ci qui sort chez Insight Edition, Teenage Mutant Ninja Turtles Ultra Visual History, enfin, Ultimate, pardon, The Ultimate Visual History, qui va reprendre...
Oui, enfin... De luxe potatoes extra size
Dash Turbo. Ouais.
X plus Alpha.
C'est ça. Voilà, ça va reprendre un petit peu des dessins et des visuels des tortues à travers l'histoire. C'est au prix de $50. C'est un gros bouquin. C'est du hardcover. C'est un plus un artbook hein, qu'un.
C'est comic. Vraiment très très beau. C'est vraiment pour tous les fans des Tortues Ninja. Ça parle du comics, des séries animées, des films. C'est une sorte de grosse encyclopédie et il me semble avoir vu que pour la fin d'année, ça sera peut-être édité chez Huguin et Munin en France.
Huguin et Munin.
Voilà, qui se spécialise dans les artbooks.
Ouais. Et franchement, ça m'intéresse par contre cet ouvrage. Donc je prends note. Il est bien, tu l'as vu donc du coup ?
Ah oui, je l'ai reçu. Il est vraiment très bien.
Si vous le voulez, il est disponible donc à Pulps Bordeaux.
Le comic shop.
Ah bah battez-vous, hein. Tu fais un battle royal quoi.
Ouais, mais bon, il a été tripoté en plus par Bruno. Donc pour certaines personnes, ça vaut plus. Mais pour moi non, je m'en fous.
Allez, on continue avec du Valiant, on y était tout à l'heure. Harbinger qui sort bien sûr chez Panini. Si vous ne voulez pas de la version Panini, il existe une version Deluxe. Pardon, c'est Harbinger Wars, autant pour moi. Harbinger Wars version Deluxe qui sort donc en hardcover. Si vous ne voulez pas attendre la version Panini, c'est le premier volume, ça vaut $40 et ça contient Harbinger Wars 1 à 4, la mini-série. Attends, Harbinger Wars 1 à 4 ainsi que Harbinger 11 à 14, Bloodshot 10 à 13 et du matériel de Harbinger Wars Sketchbook.
Et du matériel, carrément du matériel.
Du matériel,
c'est
ouais.
La
CVD.
C'est les éditions Deluxe de chez Valiant qui arrivent un petit peu après les TP et qui rassemblent en général deux TP. C'est du bel ouvrage, un petit peu en plus, un peu comme les Deluxe français, c'est la taille est un peu augmentée.
Il a reçu des mails étranges dans ses spams. Taille augmentée, les mails, les spams, enfin, ouais. Les geeks comprendront.
Oui, j'ai compris. Oui, mais c'était rigolo.
C'était de la merde, hein, je sais, mais j'ai pas dit que j'allais faire des bonnes blagues aussi. Hein. Si je faisais des bonnes blagues, ça saurait depuis le temps. Bruno, je t'en prie, continue.
Non, mais c'est fini, oui, c'est très
merde.
Bien.
Merde, j'espérais que tu reviennes là-dessus. Unity, deuxième TP, sort aussi chez Valiant cette semaine au prix de $15. Et ça va reprendre les épisodes 5 à 8 de la série Unity. Voilà, deuxième arc de cette série, toujours par Matt Kint avec Cafu au dessin. Ouais. Voilà, c'est tout pour la liste de TP 1D. Et on va terminer avec Marvel. Marvel qui sort cette semaine le Original Sin 5.1. Si vous n'aviez pas assez des points 1 avec les 3.1 et suivants qui ne sont pas encore sortis, c'est-à-dire Hulk versus Iron Man, voici venir Original Sin 5.1 et suivants qui seront donc Thor et Loki. Bon, alors ça a déjà été pas mal spoilé. Je vais essayer de pas trop en dire quand même, mais il va falloir quand même que je parle de l'histoire. On va découvrir un dixième royaume. Et oui, rappelez-vous, la mythologie asgardienne, il y a 9 royaumes, dont Asgard et Midgard, la Terre, et plein d'autres que je ne vais pas prononcer ici pour éviter de faire du norvégien, mais parce que je le prononce pas très bien, le norvégien. Mais il y a un dixième royaume qui va faire son apparition, qui a été révélé grâce à cette fameuse bombe oculaire qui a explosé. Hein, Thor apprenait un secret, comme pas mal d'autres personnes qui étaient à côté au moment de cette bombe a explosé. Et ça va nous être raconté dans ce tie-in à Original Sin, tie-in à la série principale, donc 5.1 et suivant. Je crois que c'est en 3 ou 4 parties. 4 parties, si ma mémoire est bonne.
En 5.
5 oh putain, la
un
merde.
Un par semaine jusqu'à... Voilà.
Ah merde, là par contre, 5 parties c'est un peu long. Enfin, faudra voir si l'histoire
tient. Alors, à noter que ce qui est intéressant, c'est quand même que la série Loki fait une pause pendant ce temps-là.
Oui.
Donc ça prend un peu la place de la série Loki, même si voilà, il y a plus de numéros.
Ce que oui, alors ce qui est très bien, c'est justement tu me tends une très bonne perche pour faire une bonne transition sur les auteurs. Les auteurs de cette série sont Jason Aaron et Alley Wing. Alley Wing écrivant aussi le script, ce qui est très bien. Bon, Jason Aaron déjà étant le scénariste d'Original Sin, mais aussi le scénariste de Thor, et Alley Wing étant le scénariste de la série Loki Agent of Asgard. Donc vraiment tenu par les deux protagonistes principaux, on a les deux scénaristes des séries respectives. Ça, c'est une très bonne idée. Au moins, ce sera vraiment raccord avec les séries régulières.
C'était également le cas pour la série Iron Man Hulk, où il y avait Mark Waid et
Kieron Gillen.
Ouais, donc là, c'est pas
franchement,
mal.
Ça, ce sont des bonnes idées de tie-in. Faut le préciser, parce qu'on gueule très souvent sur Marvel qui a fait des tie-in, a pu savoir quoi en foutre. Là, pour une fois, ils ont des bonnes idées. Après, il reste à voir si ce sera intéressant sur la longueur, mais au moins, voilà. Il y a un effort de fait, et je trouve que ça mérite d'être mis devant. Bon. Maintenant, la qualité de ce premier numéro, bon, comme j'ai dit, c'est le dixième royaume. De toute façon, c'est le nom du truc, ça s'appelle Thor and Loki, The Tenth Realm. Donc,
C'était bien dit, ça.
Merci, je t'en prie. J'ai pas donné la review décousue, quoi. Putain. Il faut que j'appelle, Karl Lagerfeld.
Que faire face à tant de talents? Rien.
Mais voilà
sinon
ce qui se passe quand on ouvre la porte du dixième royaume. Des vannes de merde en sortent. Et oui, parce que c'est le royaume d'Angela. Allez sur la cover. Hein, si
oui,
vous avez
mais
pas compris.
Je pense même que, même quand tu n'ouvres pas la porte de ce royaume, t'arrives à en faire des biens.
Oui, mais là, c'est encore pire. Les dessinateurs. Lee Garbett est au dessin pour la majorité du numéro, c'est-à-dire, 18 pages sur 20. Et Simone Bianchi signe 2 pages. 2 pages qui sont vraiment très jolies. Hein,
splash
clairement.
Page.
Mais voilà, il ne signe que 2 pages, c'est bien dommage d'ailleurs. Thor va apprendre donc l'existence de ce dixième royaume, mais aussi de sa sœur, et oui, une sœur perdue. Bon, ça va, je pense que vous aurez fait le lien, pas besoin que je le fasse moi-même.
Ah bon?
Ça a été tellement annoncé de façon à grand renfort
ah
de
non,
com
moi,
que
moi,
si
je
vous
vois
êtes
pas,
passé
moi,
à côté.
Je vois pas, je sais pas, Mary Jane, Gwen Stacy, Sue Richard, non.
Allez, encore un autre? Essaye.
Howard the Duck.
Eh bien, l'un de ses choix est le bon.
Ah, je me doutais que Howard the Duck était. Ouais. Je me doutais bien que c'était une meuf et qu'il était Asgardien. Surtout ouais, Asgardien d'ailleurs.
Cette review de la merde quand même. on va assister donc à la disparition de ce dixième royaume. Pourquoi ce dixième royaume a disparu et est caché aux yeux de tous. Et Thor qui va décider d'aller chercher sa sœur, car il est persuadé que sa sœur est toujours vivante. Il va entraîner son frère, adoptif certes, mais son frère néanmoins, Loki, avec lui dans cette aventure. Ce que j'ai trouvé assez sympathique, c'est la façon dont c'est écrit. Donc le script, hein, comme je disais, est fait par Alley Wing. Alley Wing est assez verbeux, hein, déjà dans sa série Loki Agent of Asgard. Si vous ne l'avez pas lu, la série, il y a pas mal de liens avec, mais les choses sont assez bien réexpliquées pour arriver à suivre. Mais on a surtout un Thor très verbeux, comme à la grande époque de Walt Simonson dans les années 80, avec un Thor qui utilise Tooth Grinder et Tooth Gnasher, hein, ces deux boucs qui tirent ce chariot, le gros chariot d'Odin, enfin... Vision classique hein, du Thor de Walter Simonson. Et on a vraiment un Thor qui débite une quantité de paroles comme je suis en train de le faire, mais en
de
plus
conneries.
dans un anglais shakespearien de chiasse.
De merde.
Mais c'est franchement, enfin voilà, on a vraiment du grand Thor de la grande époque. Moi, je suis pas persuadé, personnellement, que cette idée de faire d'Angela la sœur perdue de Thor et Loki soit une très bonne idée. J'attends de voir comment ça va être amené. Là, on a vraiment juste l'intro et le début de l'histoire avec ce Loki venu du futur qui doit permettre de réaliser la prophétie d'avoir le Thor adulte que l'on voit dans la série de Jason Aaron dès le début. Si vous avez suivi ma phrase, tant mieux pour vous, tant pis sinon. Voilà, tout ça est lié avec les séries régulières. Mais ça arrive à se comprendre facilement. Donc, je vais dire un check-it.
Au contraire de cette review, hein, qui doit être la plus longue d'ailleurs de toute l'histoire de.
Non,
de
non, c'est pas la plus longue de toute l'histoire de Comic City, mais c'est pas loin. Surtout, c'est la review la plus décousue. Je suis désolé, mais là, franchement, je peux pas faire autrement que dire, mais ta gueule! On va avoir des problèmes avec la SACEM, en plus. Donc, check-it, entre le check-it et le check-it plus, j'attends de voir la suite vraiment pour donner un avis un peu plus ferme et définitif.
La SACEM,
tu ne l'avais pas lu, Bruno, je crois.
Non, j'ai pas eu le temps, et puis je voulais lire Loki avant, et j'ai pas eu le temps.
Mais honnêtement, on peut prendre la série. Enfin, c'est vraiment bien expliqué, que ce soit dans la page de récap que fait Marvel. Un DC met-toi à la page de récap. Attention, on vanne. Mais aussi dans le comic en lui-même. Donc c'est vraiment de ce côté-là. Si les lecteurs n'ont pas suivi Loki et Agent of Asgard, ça leur permet au moins de raccrocher les wagons relativement facilement.
D'accord.
Passons à toi, Bruno, qui a été lire cette série que j'ai arrêtée dès le premier numéro, qui s'appelle Original Sins. J'espère que ce troisième épisode va me donner envie d'aller combler mon retard.
Alors, Thor va avec ses deux boucs qui puent aller chercher sa sœur.
Attends, des boucs, c'est métal, quoi.
Comme les précédents numéros, on va avoir droit à trois petites histoires, deux petites histoires qui font huit pages et une histoire qui fait deux pages. Ou non, 9 et 9 et 2, voilà, bon, c'est pas grave. La première concerne les Inhumains, et on va retrouver un personnage, c'est écrit par Charles Soule et dessiné par Ryan Brown. On va retrouver un personnage que Charles Soule a créé dans la série Thunderbolt, qui est un Inhumain qui s'appelle Linéage, et qui en fait...
Au lieu d'en créer dans Thunderbolt, il ferait pas mieux d'en créer dans Inhuman.
Ouais, mais justement,
quand la série sortira,
ça va faire le pont. Ça va faire le pont avec Inhuman, puisque la fin de ces 9 pages d'histoire vont avoir des répercussions dans la série Inhumans, sans doute. Et ce personnage, Lignage, son pouvoir est assez amusant, puisque quand un membre de sa famille meurt, quel que soit le lien de parenté qu'il y a avec lui, en fait, il y a son visage qui apparaît dans son corps. Et qui fait partie de lui et qui peut lui parler. Donc en fait, il a plein de petites têtes qui sont sur ses bras, sur ses jambes, sur son
ses
corps,
couilles,
qui sont en fait les membres de sa famille qui lui parlent et qui lui racontent
un peu
leur life.
Il y a Mabie sur mes boules qui me parle.
Oh non, c'est crade.
Et donc en fait, ça commence
t'as
avec
oublié de mettre ton pull.
Avec après l'explosion de la bombe oculaire, il y a un membre de la famille de Linéage qui meurt et qui du coup apparaît sur le biceps de Linéage. Et au moment où il est mort, en fait, il a eu une vision. Et il a eu une vision qui concerne justement les Inhumains. Et donc il raconte son histoire à Linéage. Et en fait, ça concerne Black Bolt et la guerre entre les Kree et les Inhumans, où en fait, ça s'est peut-être pas vraiment passé comme tout le monde le pensait, et que
rétro-continuité, hein.
Voilà, effectivement, et que la personne qui a commencé la guerre n'est peut-être pas celle qu'on pensait. Donc,
vous vous rappelez de vos comics avec cette guerre Inhumans Kree? Jetez-les, ça sert plus à rien.
Disons qu'au moins la façon dont ça a commencé, ça a peut-être été différent.
Ouais, je trash gratos, hein, parce que la rétro-continuité ces dernières semaines là, ça, ouais, elle en prend un sacré coup dans la gueule quand même.
Voilà. Mais bon, ils ont essayé de trouver une astuce scénaristique pour l'expliquer. Et du coup, ça va servir en fait pour le personnage, peut-être pour faire pression dans la série Inhuman, puisque à la fin, ça laisse sous-entendre que ça va avoir une importance.
Boire de la bière
par la suite.
Mais peut-être pas. T'es-tu posé cette question?
Mais comme c'est Charles Soule qui écrit quand même les deux, on peut se dire que c'est pour quelque chose, quoi. Autre petite histoire qui, elle, est plus anecdotique, c'est celle qui concerne les Young Avengers, qui est un petit peu le fil rouge qu'on retrouve dans chaque numéro.
Bizarrement, c'est la plus anecdotique, tiens.
Ça commençait de façon sympathique, mais là, maintenant, en plus, déjà, les dessins de Jordan Gibson sont vraiment assez... Là, c'est vraiment du style indé, moi, je trouve. C'est Ryan North qui écrit, donc au niveau des dialogues, il y a pas mal d'humour, mais... l'histoire est un peu lambda. Ils essayent de créer une sorte de cérébro pour sauver les gens qui ont été victimes de la bombe oculaire. Bon, c'est un peu pourri. Et la dernière histoire en deux pages, ça concerne un secret de J. Jonah Jameson. Mais alors là, vraiment, ils sont allés chercher ça très loin. C'est un peu pourri. C'est dessiné.
En fait, ces moustaches sont pas des vrais.
Ouais, ces moustaches sont arrivées à cause d'une piqûre d'une araignée.
C'est à peu près ça, mais ça
une
concerne...
Une araignée moustachue. La fameuse araignée moustache d'Afrique.
Ça concerne le fait que peut-être Jameson a admiré Spider-Man à un moment ou un autre de sa carrière, mais bon, c'est un peu naze. C'est écrit par Dan Slott. Voilà, ça fait deux pages. Ça reste vraiment très anecdotique. J'avais trouvé le numéro 2 intéressant, puisque ça faisait revenir le personnage du Black Knight de façon assez intéressante. Mais là, c'est assez moyen, c'est un pass, quoi.
D'accord. Je suis encore sur l'araignée à moustache, hein. Je suis
désolé.
Aussi,
ouais, j'imagine l'araignée à moustache. J'imagine une araignée avec des moustaches. Eh oui, j'ai des grosses moustaches.
La fameuse araignée à moustache d'Afrique, bien connue, effectivement, de tous les entomologistes.
Si ça tombe, elle existe, hein.
Putain, le pire, c'est que c'est possible. Il y a tellement d'insectes bizarres. Peut-être que ce sera notre nouveau logo quand on voudra remettre à jour le site L'araignée à moustache, effectivement. Ouais. Passons à la suite.
Ça dépend après, comment tu l'écris d'ailleurs. L'araignée à moustache. Ça ne peut, après, il faut trouver une signification.
Tu sais, les mauvaises blagues, parfois, il faut arrêter au bout d'un moment.
Mais non, justement, plus elles sont mauvaises, plus il faut les faire durer. Et oui, c'est le parti pris que nous avons choisi. Donc après ce pass pour Original Sins numéro 3, Bruno, nous allons revenir sur Original Sin avec un tie-in. Mister Nibony, tu nous parles du Avengers numéro 32. Car oui. Il faut des fois reprendre un petit peu de sérieux quand même.
Oui, et ce qui est très bien avec Original Sins actuellement, c'est que on peut lire les tie-ins.
Non, avec Original Sin, parce que Sins, oui. Bruno a dit que c'était un pass.
Oui, pardon. Avec Original Sin, ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on peut lire les tie-ins sans lire la série principale, et inversement. Et donc, du coup, là, ce qui se passe dans Avengers, c'est certes des conséquences à Original Sin, mais c'est des conséquences qui ont vraiment... quasiment rien à voir, en fait, avec l'intrigue principale d'Original Sin. Donc on retrouve effectivement cette intrigue de...
J'ai rien compris à ce que t'as dit.
Oh le mec, comment il se venge. Oh, Bruno est revanchard en plus.
Bisque rage.
Non, je déconne.
Mais Bruno, on sait, t'es raciste et revanchard, c'est bon.
Mais oui, je suis un gros...
Oh, le raciste revanchard.
En fait, Bruno, c'est un gros beauf, quoi. Voilà, c'est ça. Faut le dire. C'est un gros beauf, il est raciste, revanchard, et en plus, il regarde du foot.
Je ne vous permets pas de dire des choses pareilles.
Mais non, on plaisante. C'est parce qu'on t'aime qu'on te trash.
En plus, ouais, c'est vrai. En plus, ouais.
Je pense que les gens sont bourrés, là, parce que ça fait 2-3 fois qu'on dit trash, alors si en plus ils jouent au jeu à boire avec des gros shots, là, ça va leur faire mal.
Donc Jonathan Hickman est au scénario, Lenil Francis Yu est au dessin, on a un ancrage de Gary Alan Gillan.
Oui, le fameux encreur de...
Lenil Francis Yu.
Ouais, merci, voilà, c'est du mec là, c'est le mec qui dessine.
Et du coup, donc on est dans cette intrigue où Captain America s'était aperçu qu'il avait été manipulé par les Illuminati, il y a eu un gros conflit avec Iron Man, ils sont projetés dans le temps, ou en tout cas, là, c'est Captain America, Black Widow, et puis Starbrand, je crois, qui sont projetés projetés plusieurs années dans le futur, et ils ne cessent d'avancer dans un futur de plus en plus lointain. Et là, au fait, ils arrivent à une époque où il y a une espèce d'Éden sur Terre, c'est assez particulier, ils savent pas trop dans laquelle période ils sont, et ils croisent Franklin Richards qui leur explique un petit peu ce qui s'est passé et qui montre à Captain America que peut-être s'il empêche au fait ses petits camarades de faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire de détruire une planète pour sauver l'univers, peut-être que c'est faire plus de mal que de bien, et peut-être que c'est un sacrifice vraiment utile pour l'avenir de l'humanité que de prendre cette voie-là. Et Captain America n'est pas content d'apprendre ça, il s'oppose à cette idée, et puis on va avoir un autre bond dans le temps qui de toute façon va nous faire passer à autre chose, c'est un épisode assez philosophique, ça réfléchit beaucoup sur les concepts de temporalité, de choix, tout simplement. Un choix peut en entraîner un qui a des conséquences catastrophiques. Donc c'est assez verbeux, ça m'a beaucoup moins plu que les derniers épisodes que j'ai lus d'Avengers de Hickman. On sent qu'il s'est fait plaisir, quoi. Il a vraiment écrit.
Ouais, c'est dans la continuité des précédents. Hein. Je l'ai lu aussi et j'ai passé un bon moment.
C'est un peu chiant, quoi.
Il y en a qui diront que c'est parce que c'est du Hickman, quoi. Mais
mais justement, les précédents, moi, je trouvais qu'il y avait de l'action, il y avait un juste dosage. Là, c'est vraiment de la parlotte. Finalement, ça n'avance pas. Finalement, tu pourrais même louper cet épisode. Et pour autant comprendre le reste de l'intrigue.
Ouais.
Bah, profitez-en pour aller chercher de l'indé, tiens.
Ça dévoile 2-3 petites choses. Il y a. Cet arc avec ces fameux bonds dans le futur nous permet de voir des choses assez intéressantes sur comment on peut imaginer vraiment un futur ultra lointain. Parce que là, ils font des bonds, mais c'est la folie, quoi. Et voilà. Graphiquement, je trouve ça toujours aussi sympa. Il y a pas mal d'inventivité. On sent qu'il veut nous dire quelque chose. La conclusion, ce sera, je crois, dans le prochain numéro. Et
si j'étais méchant, je dirais que c'est le problème d'Hickman, c'est qu'on sent qu'il veut nous dire quelque chose, quoi.
Ouais, mais voilà, mais moi je trouve ça toujours quand même aussi intéressant. Et voilà, il me tarde de voir ce que va en retenir Captain America quand il va revenir à notre époque, quel va être le choix qu'il va faire, puisque ça va être très important.
Bah déjà, il va faire le choix de vieillir.
Déjà.
Histoire d'être à corps un peu.
Exactement.
Bah ça, malheureusement, c'est un choix qu'on n'a pas vraiment à faire, quoi. On va tous en passer par là, hein. Mais je pense qu'on déciderait de ne pas vieillir si on pouvait.
Putain, le mec, il est parti en philosophie. Ouais,
c'est ça.
Oh, qu'est-ce qui t'arrive, oh, Benny?
Je sais pas, c'est Hickman là qui m'a soufflé quelques
Disons
concepts.
Que quand on compare ce numéro avec New Suicide Squad, j'ai quand même passé un meilleur moment avec,
oui,
avec Avengers et avec ce côté un peu plus intellectuel.
J'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que bon, voilà, je m'étais un peu plus emmerdé que d'habitude dernièrement sur Avengers. Donc bon. Est-ce qu'on a terminé sur ce numéro?
On a terminé, oui.
Donc moi je vais donner un check-it à ce numéro simplement.
Moi c'est un bail et j'aime beaucoup cet arc. Donc, voilà.
Alors on va continuer maintenant avec une nouvelle sortie dont le prélude était sorti il y a de ça quelques semaines. Il s'agit de Spider-Man 2099 numéro 1, nouvelle mouture de cette version de Spider-Man futuriste qui s'est retrouvée bloquée dans le passé pour des raisons qui sont très très bien rappelées sur la page de garde, la page de récap. Et qui voilà, bah, relisez Superior Spider-Man si vous voulez voir un peu plus en détail pourquoi. C'est écrit par l'excellentissime Peter David et dessiné par le très bon Will Sliney. Je trouve qu'il fait une composition très sympathique pour cet épisode. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Je trouve ça très beau aussi.
Ouais, c'est vraiment super beau graphiquement. Ça me fait penser un petit peu, alors c'est pas péjoratif, mais à du LaRocca quand il pour le style un peu réaliste, ouais. Surtout des décors. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, mais moi j'aime beaucoup et j'ai adoré vraiment graphiquement cet épisode.
Alors Peter David commence déjà par nous placer un petit clin d'œil à sa série X-Factor, puisqu'on a un joli camion de Serval Industries qui roule et qui se fait dézinguer façon Terminator quand il y a quelqu'un du futur qui arrive.
Ouais. Ça c'est bien.
Ça m'a fait marrer les vieilles références en deux pages, quoi.
Ouais, c'est cool.
Il fait une référence à Terminator, enfin une référence à sa série, puis une grosse référence à Terminator, quoi. Le coup du mec qui apparaît dans un tas d'éclairs, voilà, tu peux pas penser à autre chose aujourd'hui. Et puis on va suivre donc ce personnage de Miguel O'Hara qui est donc coincé à notre époque et qui bosse pour Alchemax, la boîte pour laquelle il bossait dans le futur.
La boîte qu'il vous faut.
Pour son grand-père, parce qu'il était revenu dans le temps pour le protéger, il bosse pour son grand-père et il va être prise en chasse par un chasseur du futur, hein, tout simplement.
Ouais.
Un espèce de Bane version armure.
Je dirais une espèce de ninja cyborg de.
Oui, mais ça me fait penser à un design que je connais, mais je n'arrive pas à remettre le nom dessus. Ça me fatigue parce que depuis tout à l'heure je cherche, mais j'ai pas réussi à retrouver ce à quoi ça me fait penser.
Ça me fait penser un peu à un Omac, mais.
Ouais, ça me fait penser un peu au cyborg Superman aussi. Enfin.
Le cyborg dans Metal Gear Solid aussi.
Oui, c'est ce que je dis, ouais, le Ninja Cyborg, là. Mais il y a tellement de personnages qui ont ressemblé à ça.
Ouais, voilà. Bon, je pense que c'est un design qui est dans l'esprit de tout le monde, un petit peu, quoi. On y voit tous un peu ce qu'on a envie d'y voir, quoi. C'est beau, ce que je dis.
Oui, c'est magnifique.
Hickman prend note, là. Il en prend de la graine.
Et Spider-Man 2099, donc alias Miguel O'Hara, va devoir défendre sa peau ainsi que la peau des innocents, puisque c'est un super-héros, donc il essaye de sauver les innocents face à cet ennemi du futur qui a une très bonne vision du futur, je trouve.
Ouais.
Il sait qui est important ou pas et voilà qui il peut buter sans crainte. Et j'ai trouvé ça très malin.
Et un personnage très pragmatique, puisqu'on a quand même un petit twist à la fin qui est assez amusant. Mais vraiment une bonne lecture. On passe un bon moment, ça va à 100 à l'heure.
Ce twist de fin fait partir la série, quoi. Et on revoit aussi d'ailleurs ce personnage, c'était un peu la crainte qu'on avait que les petits 8 pages qui étaient sortis il y a de ça quelques mois qui nous préparaient à c'était dans
Amazing Spider-Man numéro 1, ouais.
Donc c'était il y a 3 mois, soit réimprimé dedans, pas du tout. On reprend l'histoire là où on l'avait laissé et on revoit cette personne qui l'avait sauvé et qui sera sûrement un intérêt amoureux, on le voit tout de suite, hein, pour Miguel O'Hara.
Alors, justement, cette personne, très intéressant, j'ai une théorie. Ah. C'est-à-dire que physiquement, elle ressemble.
Attention, théorie de Benny, il faut un jingle.
Oui, parce que elle est quand même particulière physiquement, c'est-à-dire que c'est une nana avec des cheveux roses et
ah
une coiffure. Oui, non, mais justement, il y a une nana qui avait
c'est
la même tête,
Robin.
Qui était exactement le Green Goblin de l'année 2211, qui est apparu dans un arc par Peter David dans Friendly Neighborhood Spider-Man il y a plusieurs années.
Et ajoutons à cela, que le chasseur vient de l'année 2211.
Voilà.
C'est dit dans le comic.
Oui, donc je pense que c'est la bouffon vert de l'année 2211 que rencontre là Miguel O'Hara, qui bien sûr ne peut pas la connaître. Bon, on verra si c'est ça, mais ça m'étonnerait pas que Peter David réutilise ce personnage qu'il avait amené dans Spider-Man il y a quelques années.
Mais Peter David a ce talent pour aller chercher des petits points de détail qui paraissent anodins, mais si on connaît un petit peu l'histoire, bah comme toi tu viens de nous la sortir, Benny, on fait les liens, mais même si c'est un nouveau lecteur qui ne l'a pas vu, ça ne le dérangera pas la lecture.
Non, au contraire, puisque ça pourrait ne rien avoir à voir avec ça.
Voilà, est-ce des clins d'œil, est-ce véritablement un point d'histoire, bah, ça on le découvrira dans les prochains mois de toute façon.
Dans ce qu'avait teasé Peter David, il avait dit qu'il allait quand même pas mal se baser sur ce qu'il avait écrit auparavant sur 2099, donc c'est pas illogique qu'il...
Enfin là, c'était pas dans 2099 justement, c'était dans une série Spider-Man à l'époque de après Civil War en fait, juste après Civil War.
Oui, c'était Back in Black notamment, tout ça. Où il écrivait Friendly Neighborhood Spider-Man.
Ouais. Exactement. C'était durant la période où Peter avait la fameuse armure l'Iron Spider Armor.
Ah bah, c'était juste avant Back in Black.
Ouais. Tout à fait. Voilà.
Très bon morceau des CDC, comme chacun le sait.
Et oui, et puis très bon morceau, d'ailleurs très bons épisodes, enfin c'était marrant ces épisodes de Peter David. C'était quand même pas mal.
Non, franchement, bonne surprise hein, que ce Spider-Man 2099, j'aurais pu en faire mon coup de cœur, mais...
Ah bah moi c'est mon coup de cœur, tiens d'ailleurs, cette semaine.
Spread a été choc, hein, donc...
Non mais moi c'est vraiment mon coup de cœur, et voilà. Et il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a une. Alors, par contre, Liz Allen là, qui devient de plus en plus antipathique, aussi bien dans Spider-Man ces derniers temps que dans cet épisode.
Ah, au moins il y a une évolution pour le personnage,
qui
est raccord entre les séries.
Ouais. Puis bon, elle s'en mange tellement plein la tronche depuis des années que voilà, c'est un petit peu logique qu'elle prenne cette route.
Il y a tellement de vannes à faire qu'on va éviter.
Ouais, on va exactement.
Voilà, ça c'est fait. Bruno, toi aussi, bye ?
Ouais, un gros bye. Très bonne surprise.
Eh bien, vas-tu nous décerner le dernier bail de la soirée, pour cette dernière review donc, puisqu'il s'agit du 100e anniversaire de Spider-Man, décidément, Marvel ne sait toujours pas compter.
Ouais, donc c'est Great Power, la partie 8 de 8. Donc, les cherchez pas les 7 premiers, hein, parce que c'est un numéro qui nous vient directement du futur, un petit peu comme l'almanach de Biff Tannen. Donc c'est écrit par Sean Ryan avec des dessins de Ian Hughley. Donc Sean Ryan, c'est le même qui a écrit New Suicide Squad, que j'ai pas trop aimé. Alors on a un statu quo qui est assez amusant dans le futur, puisque Peter Parker a conçu une sorte de nouveau technosymbiote où il utilise un Venom modifié. Il a utilisé ce costume pendant un moment, puis il a voulu le détruire, et il se retrouve avec Eddie Brock et en présence du Kingpin, et c'est le Kingpin qui veut récupérer ce fameux costume et qui l'adosse, et du coup on se retrouve avec un Venom Kingpin. Ça nous donne quand même de belles images.
Ouais, mais c'est un peu un concept, tu sais, vu et revu quoi.
Ouais.
À voilà, force le symbiote, il aura été sur tout le monde.
C'est ça. Et là en plus il contrôle en plus tout ce qui est électronique. Alors ça donne droit à des scènes assez sympas graphiquement, même si voilà, tout le monde ne sera pas fan du style du dessinateur.
C'est très photoréaliste, c'est très statique,
ouais.
Mais c'est quand même sacrément joli. Hein.
Les visions du Venom sont cool. Alors par contre, j'ai trouvé le scénario vraiment lambda, vraiment bateau, avec une conclusion qui, malgré des images assez choc, est vraiment mal faite, avec la conclusion du combat qui est expédiée. Et vraiment anticlimactique.
C'est un arc basique. C'est pas un mauvais arc, Enfin, en tout cas, on ne juge que sur la conclusion, évidemment, parce qu'on a lu que celui-ci.
Ouais.
Mais c'est pas un mauvais arc, mais c'est pas un bon arc, quoi. C'est un arc qui serait tout à fait sympathique dans les années 90. On dirait, ouais, un arc sympa, mais pas un arc mémorable, quoi. On a l'impression d'avoir lu ce genre d'histoire 20 000 fois.
Oui, puis...
Autant peut-être qu'avec le Fantastic Four de la semaine dernière, on avait l'impression d'avoir des nouveautés, des choses qui changeaient, on restait dans les concepts de Fantastic Four, etc. Là, c'est aussi la même chose avec Spider-Man, mais ça en devient le problème. On reste dans le même schéma habituel de Spider-Man.
Et c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas mis d'accord au niveau du concept, puisque autant dans Fantastic Four, on avait vraiment l'impression d'être 25 ans dans le futur, autant là, on a un Peter Parker qui ressemble également exactement à ce qu'il est actuellement.
Oui. On est en 2061 et on n'a pas l'impression que les choses vont avancer.
Voilà, et ça c'est vraiment dommage puisque on a pu voir des previews par exemple pour Avengers aussi où on a l'impression que là c'est vraiment un univers complètement modifié et vraiment futuriste. Là c'est bizarre. On a l'impression qu'ils n'ont pas fait le boulot exactement comme il fallait.
Tante May est morte.
Ouais. Bah voilà. Quand même. Au bout de 25 ans plus tard, oui. On peut imaginer qu'elle va mourir à un moment ou à un autre, quoi.
Mais pour la 153e fois, ouais.
Mais donc voilà, ça m'a laissé un petit goût un petit peu amer. C'est sympathique, mais pour un numéro soi-disant anniversaire, on va vous en mettre plein la vue, c'est quand même assez basique. Pour moi, c'est encore un pass, quoi.
Ben, moi je vais pas dire un pass, je vais dire un check-it moins. Vraiment à réserver à ceux qui sont fans de Spider-Man, qui ont envie de voir une histoire qui n'aura absolument aucune importance, qui ont envie de voir des dessins relativement sympathiques, même si ça se lit très vite parce qu'on a pas mal de pages sans dialogue, c'est aussi un gros défaut. Mais voilà, ce sera un check-it moins pour ma part. C'est tout.
Voilà.
Donc on va terminer avec les TP de la semaine. Alors, vous aimez les Guardians of the Galaxy? Eh ben, tant mieux. Et si vous les aimez pas, eh bien, vous aurez pas beaucoup de TP à acheter, puisque cette semaine sort Guardians of the Galaxy par Jim Valentino, deuxième TP. Donc, c'est la série des années 90, avec les épisodes 8 à 20 de cette série. C'est au prix de $35.
Oui. Mais c'est cool, par contre, de les sortir, effectivement, les vrais gardiens qu'on va retrouver bientôt dans Guardians.
3000.
Guardians 3000. Voilà.
Et oui, comme Justice League 3000. Nous avons aussi le TP Star-Lord, avec, gros reprint du matériel, putain, je vais y arriver.
Bah non, ça va rester, ça. Ça va rester.
Du matériel.
Le fameux matériel.
Et merde, fait chier. Voilà, Marvel Preview 4, 11, 14 et 15 et 18. Marvel Super Special numéro 10. Marvel Spotlight 6 et 7. Marvel Premiere 61. Et enfin, la mini-série de 96 de Star-Lord 1 à 3. Tout ça au prix de $35.
Bah, c'est du très bon matériel. Voilà.
Pour les enfants. Et oui, car il faut penser aux enfants un petit peu, n'est-ce pas, Nono?
Les petits et les grands, les enfants, les parents.
C'est déjà là ce qu'on dit. Vous avez du matériel aussi pour les plus jeunes, qui s'appelle Guardians of the Galaxy Cosmic Team-Up Digest. C'est un TP, ça vaut $10, et ce sont les Marvel Universe Avengers. Vous savez, ces versions plus enfantines, ces versions tirées des versions animées de l'univers Marvel.
D'accord.
Marvel Universe Avengers Earth's Mightiest Heroes numéro 18, le Marvel Universe Ultimate Spider-Man numéro 22, le Marvel Universe Hulk Agents of Smash numéro 4, et le Incredible Hulk, la série de 1968, la vraie série de l'univers Marvel classique, numéro 271. Ces quatre épisodes donc sont repris pour $10. Si vous avez envie de donner les gardiens en version plus jeune, en version animée, comme ils le connaissent à la télé, à vos enfants. Et leur faire apprendre l'anglais par la même occasion, puisque ça n'existe qu'en anglais, évidemment. En tout cas, pour le moment.
Hurry up, children, it's time to go to school. Mom, enfin... where is my umbrella?
Oh, putain. Le mec, il en ressort ses cours d'anglais, quoi. Enfin, pour les fans de la série télé Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Declassified Slipcase Hardcover, ça vaut $50. Bruno, peux-tu nous parler de cet objet que tu as sûrement reçu à ta boutique ?
Eh bien, il s'agit d'un artbook qui, de la même façon que les artbooks qu'on a pour les films Marvel Studios, se présente dans un slipcase et voilà, nous va un petit peu dans le fond des choses qui concernent les designs, les concepts qui ont servi pour la série d'inspiration. Voilà. Donc pour les fans de la série, à réserver aux fans de la série.
Eh bien, merci pour cette très belle présentation. Nous irons de ce pas ne pas l'acheter.
Bon, ça vaut
si
pas
on n'est pas fan de la série,
.
Évidemment. Mais si on est fan de la série, nous courons à Pulps Bordeaux se procurer ce magnifique objet au prix de $50.
Exactement.
Voilà. C'est tout pour cette semaine. Et oui, c'est un podcast un petit peu bizarre, on le sait, c'est parti en cacahuète, mais rappelez-vous, nous avons eu un énorme live hier aussi.
Et oui.
Oui. Et nous sommes complètement fatigués.
Oui. Ah bah c'est vrai ça, dis donc.
On peut pas être épique deux soirs d'affilée.
On peut pas être au four et au moulin.
Mais c'est même pas deux soirs d'affilée, car nous enregistrons juste après le live.
Live, avec du matériau de ouf. Avec du matériau live. Spécial Comics-Com.
Ouais. Mais ça sert à rien de faire la pub pour le live, puisque voilà,
on l'est déjà passé, mais vous pouvez le revoir en différé, évidemment, sur YouTube. Alors, ne nous posez pas vos questions sur Twitter, hein, c'est trop tard. Enfin, pas pour le live en tout cas, mais pour les futurs Weekly News, que vous découvrirez en tout cas en termes de programmation pour les futurs Weekly News dans le live. À vous de regarder cette émission épique, voilà. Totalement. On le sait déjà par avance parce qu'elle est déjà passée.
Ouais, ça tombe bien, on a pas mal de comics avec des voyages dans le temps et on fait pareil.
Exactement, il manquerait plus qu'elle soit annulée et puis on sera bien.
Et oui, car tel Marvel déconstruit le time stream, nous le reconstruisons à notre façon.
Ouais, exactement.
De toute façon, s'il est annulé, c'est qu'il y a eu une modification dans le time stream et c'est tout, quoi. Ça sera expliqué comme ça, hein.
Exactement. Eh bien, c'est tout. On se retrouve donc la semaine prochaine pour votre prochaine dose de review. Et franchement, cette émission, c'est du n'importe quoi. Mais quels vont être les suivants? Plus les chiffres avancent, pire c'est.
Ah oui, c'est bien.
Ouais. Peut-être et plus on a de tipeurs, plus on a de tipeurs. Et plus les gens adorent, puisqu'ils nous laissent des commentaires en disant que c'était catastrophique, mais ils en veulent.
En tout cas, peut-être ferons-nous comme Marvel, nous aussi, nous ferons un bond dans le temps, voir ce qui se passera dans 10 ans quand nous en serons au Comics Weekly 2483. Qui sait, peut-être que ça arrivera cet été.
Peut-être.
Ou cet hiver. Ou cet automne, parce qu'entre l'été et l'automne, il y a l'hiver. Sauf si on reconstruit le time stream, comme je le disais précédemment. Aidez-moi, je m'engouffre.
Non, mais je sais, dès le début, je me suis dit, oh putain, il part dans le mur. Mais il y a eu deux
petits coups entre l'été et l'automne, il y a l'hiver.
T'as donné un petit coup d'accélérateur là, j'ai bien aimé là. Tu sais, c'était.
Le mec me pousse avec son pied pour que je me reprenne le mur deux fois quoi.
Au début, t'y allais en bagnole normale et puis après t'y allais en Formule 1 quoi directement.
Ouais, écoute, hein, quitte à faire les choses, faisons-les.
Allez, Jean, allez-y.
T'aurais pu dire Ayrton Senna.
Putain, merde, tu m'as grillé.
Ouais, non, j'étais le dire.
C'est plus le gravier plutôt que le mur, quoi. Bon.
Non, mais là, ouais, c'était le mur. Là. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour le Comics Weekly 203, les prochaines sorties de la semaine prochaine, évidemment. j'avais pas d'autres synonymes. Bien sûr, d'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et retrouver tous les anciens épisodes sur le site évidemment comiccity.fr, mais aussi sur iTunes. C'est iTunes. J'avais pas de fin en fait. Je
la
sais pas pourquoi je suis parti
sur téléchargement disponible sur vos iPhones et compagnie.
Oui, voilà. Merci à tous. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Faites comme nous, prenez des cachets dans la semaine. Ça aide.
Oui, c'est vrai. Vaut mieux. Et Benny, tu dis rien?
Benny se désolidarise, je sais pas de casse.
Tu veux même pas faire une petite chanson d'un tube de l'été ou un truc comme ça?
Non. Hey, grand-pa, oncle Charlie. Hey, j'écoute le dernier Comic City, c'est vachement bien. Voilà, ce sera
c'est
tout.
Bien.
Sponsorisé par les mini-pouces.
Voilà. C'est à la demande populaire générale d'une personne. J'ai, j'ai refait une imitation. Je ne sais pas si c'était terrible, mais bon, tant pis.
Si, c'était pas mal. Allez, ciao, ciao.
À la prochaine. And you're heading up to Wrecking Brisbane Beach.